Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur cette libre antenne qui commence exceptionnellement ce soir un peu plus tard pour cause de match, mais c'est pour la bonne cause, vous l'avez entendu. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin, alors si vous souhaitez prendre la parole, c'est maintenant. Venez me parler de vous, de votre vie, de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous est arrivé, de vos projets, de vos réussites aussi, pourquoi pas, si ça peut être inspirant. Le numéro de téléphone pour me joindre, c'est le 3921. Estelle et Maxime sont au standard, prêts à vous accueillir. Et puis à tout moment, si vous avez envie de donner votre point de vue, de réagir en direct par SMS aux échanges, eh bien vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot nuit. Enfin, vous le savez, pour entrer en contact avec nous par mail, c'est à l'adresse suivante libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Jean-François est à la réalisation ce soir, alors si vous êtes prêts, on y va tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sabine. Enfin, bonsoir d'ailleurs, parce que je vous avais eu il y a quelques mois, en fait. Mmh. Est-ce que vous voulez que je vous remette dans le contexte?
S'il vous plaît,
Oui, bien sûr. Alors, en fait, le truc, c'est que j'habitais à Montréal à l'époque. Et en fait, là-bas, j'ai fait une grosse dépression, une dépression sévère qui a été terrible et qui a fait que, en fait, je suis rentré en France malgré moi parce que j'avais ma fiancée en fait qui était là-bas.
Oui, je me souviens de votre appel maintenant.
Vous vous souvenez, ouais, ouais. Et j'avais un très bon job là-bas et tout ça, et j'ai décidé de rentrer en France parce que c'était plus possible, c'était devenu invivable. Et donc voilà, et je suis rentré en France. Et puis, je voulais vous donner un peu de mes nouvelles.
Avec plaisir.
En fait, j'ai enchaîné deux jobs, un dans la restauration, un dans une grande maison de luxe. Pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment le sentiment d'avoir du mal à reconstruire ma vie aujourd'hui, quoi. C'est très compliqué. Cette dépression, ça reste une espèce de plaie ouverte, véritablement. Et j'ai du mal à passer au-delà de ça. Alors, j'ai des relations amoureuses, mais qui ne durent pas, en fait, parce que je suis toujours très amoureux, en fait, de mon ex-compagne de Montréal.
Et oui, c'est ce que j'allais vous demander, oui.
Ça a été un déchirement,
cette séparation.
Ça a été un déchirement. Ça a été horrible parce que, en fait, on était amoureux tous les deux. Vraiment, on était fous l'un de l'autre. Et en fait, cette maladie horrible a fait que je suis rentré parce que j'avais besoin d'être auprès de ma famille et tout ça, mais c'était pas voulu, si vous voulez.
J'étais vraiment amoureux d'elle. Hein.
Voilà, exactement. Mmh. Et la pauvre, elle était beaucoup plus jeune que moi. Moi, aujourd'hui, je viens d'avoir 40 ans. Elle en avait 20, 25. Donc, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Elle comprenait pas tellement ce qui se passait et tout ça. C'était un petit peu difficile pour elle. Mais elle a été d'un support absolument incroyable. Et honnêtement, je lui en serais toute ma vie reconnaissant. On a repris contact il y a très peu de temps, en fait, vraiment très peu de temps. Elle m'a souhaité un bon anniversaire pour mes 40 ans, là. C'était le 22 mai, donc c'était assez récent. Et depuis, on se donne quelques nouvelles, mais ça va pas plus loin que ça. Mais c'est quelque chose qui me fait mal encore, qui est vraiment, vraiment très difficile. J'ai du mal à passer outre cette relation, en fait. Et toutes les filles que je peux rencontrer, j'ai tendance à comparer, à...
Ouais, ce sont des relations pansement, comme on dit.
Exactement, ouais, mais ça donne rien, quoi. Honnêtement, ça donne rien, absolument rien. Et puis, professionnellement parlant, c'est compliqué aussi, parce que donc les deux travails où j'ai été, en fait, ça s'est moyennement passé, parce que j'étais extrêmement stressée quand j'y allais. J'étais vraiment, j'étais pas à l'aise. cette maladie, ça m'a coupé toute confiance en moi, en fait, si vous voulez, quoi. J'ai l'impression d'être une plaie ouverte, vraiment. Voilà, et puis de prendre chaque chose là, extrêmement difficilement. Donc j'ai du mal à avancer et là voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans. Moi j'ai très envie d'avoir des enfants. Je rêve de ça. Mais j'imagine qu'avant ça, il faut avoir un travail, il faut avoir une situation, il faut avoir des choses comme ça, chose que j'ai pas vraiment pour l'instant. Mais à part des parents super compréhensifs et tout, qui ont été toujours là pour moi et vraiment que je remercie à fond parce qu'ils ont compris, ma maladie, chose qui est pas toujours bien comprise.
C'est difficile pour les proches. Ouais, bien sûr.
Mais oui, on comprend pas parce que c'est pourquoi tu vas pas bien
c'est
et tout.
C'est une souffrance tellement invisible.
Ah, c'est terrible, quoi. Et j'ai lu un livre de Philippe Labro
qui s'appelle Tomber cette fois. J'allais vous en parler justement.
Voilà, j'ai lu ce livre-là qui m'a beaucoup beaucoup touché en fait durant ma maladie. Mais je pense encore que le mot dépression, il n'est pas pris à sa juste valeur, si vous voulez. En fait, c'est tellement dur quand on est dedans, quoi, ouais. Vraiment, que c'est...
Mais tous ceux qui l'ont vécu et traversé disent la même chose. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on a tendance à dire « Allez, bouge-toi, pourquoi ?» On ne comprend pas, on se dit « Il le fait exprès, limite, quoi. »
Mais oui, c'est ça.
Alors que quand on l'a vécu, on sait à quel point c'est bien plus sournois et bien plus difficile.
C'est terrible. Ouais. Et moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis, si vous voulez, dans cette épreuve. Parce que des amis n'ont pas compris. Ils me disaient, Pierre, mais vas-y, viens, on va faire du sport, on va faire ceci, on va faire cela et tout. Et moi, j'étais là, mais je peux juste pas, là. Je peux pas me lever, je peux même pas aller sur mon canapé devant la télé, quoi. C'est impossible. Donc, c'est vrai que ça a été... Voilà. Et en fait, pour être honnête avec vous, c'est arrivé, j'avais 35 ans. Donc, j'étais à Montréal, j'avais une bonne situation professionnelle. J'avais une situation amoureuse qui allait extrêmement bien. J'allais demander ma copine en mariage pour être très transparent avec vous. Peu de temps avant, en tout cas, ce qui s'est passé. Et puis, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Du jour au lendemain, je suis rentré chez papa, maman, comme un petit bébé. Je suis rentré chez ma mère qui venait me voir, qui me bordait le soir et tout, qui était là, est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien et tout.
C'est ça qui est très, très sournois avec la dépression, c'est qu'elle arrive souvent à un moment où tout va bien. Parce que les fissures ont commencé à se faire bien avant. Et c'est comme sur un édifice, finalement, il y a une fissure et puis une autre et puis une autre. Et le jour où ça s'écroule, ce n'est pas forcément un jour où il y a un tremblement de terre.
C'est incroyable.
Il suffit juste d'un tout petit truc qui peut même passer inaperçu, et d'un seul coup, ça s'écroule alors qu'on avait l'impression que ça allait bien. Ouais.
Exactement, parce que moi, tout allait vraiment au top du top. Pour vous dire, donc j'étais au Canada, j'avais emmené ma copine pendant les vacances d'été, juillet-août, on était en 2015, je l'avais emmené en vacances donc de Montréal à Venise, on était allé à Rome également, je lui avais présenté mon père, je lui avais présenté ma mère au mois de novembre et tout. Au travail, on me donnait promotion sur promotion. C'était vraiment, c'est devenu genre, j'avais l'impression d'être privilégié même par rapport à d'autres, quoi. C'était, mais c'était mon travail qui était quand même plutôt bon. Et puis voilà. Et puis d'un coup, sans savoir pourquoi ça s'arrête.
L'image que j'ai là, c'est la taupe. Vous savez, le travail souterrain.
Ouais.
Les fissures se font, on voit rien à l'extérieur. Et puis à un moment donné, il y en a trop, et la terre s'écroule. À un moment X. Et là, comme vous dites, on, ça ne sert à rien de nous dire « prends sur toi, fais un effort, tu vas y arriver ». Parce qu'avec la meilleure volonté du monde, si on pouvait, on le ferait. Et si on ne peut pas se lever du canapé, si on ne peut pas aller jusqu'au bout du couloir, si on ne peut pas sortir, c'est que vraiment, on ne peut pas. Ce n'est pas juste pour faire le malin ou se rendre intéressant, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué quelquefois pour l'entourage.
Bah, les gens ont du mal à le comprendre. Et puis, comme je vous le disais, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu énormément de mal à... à le comprendre, qui m'ont charrié par rapport à ça, qui m'ont chambré, qui m'ont dit mais Pierre et tout, tu fais ton intéressante et on sait que t'es un peu feignant et tout, tout ça, c'est, voilà et tout. Mais c'était pas le cas. J'étais juste. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Sabine, ça fait 5 ans maintenant là que ça dure. Je dis que ça dure et non pas que ça durait parce que j'estime être encore dedans, malheureusement. Mais il y a du mieux, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a du mieux. C'est quand même. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses et tout. J'arrive à faire quelque chose, mais c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même. J'ai du mal à passer au stade supérieur, quoi.
Alors,
à passer la seconde.
Qu'est-ce que vous
en
avez fait pour aller mieux là, sur le plan à la fois médical et psychologique? Par quoi vous êtes passé?
Alors sur le plan médical et psychologique, donc je suis un traitement en fait à base de lithium maintenant.
Ah, donc on est passé dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la bipolarité?
Exactement, ouais. Bah c'est ça qu'on m'a administré en fait. J'ai été.
On vous a diagnostiqué vraiment bipolaire?
Ouais, mais ce que j'ai du mal à croire en fait, pour être honnête avec vous, moi j'ai été interné à l'hôpital psychiatrique de la Pitié-Salpêtrière, et donc après un moment ils m'ont dit, écoutez Pierre, on pense que vous êtes bipolaire, quoi. J'ai dit ah bon, et tout, c'est bizarre.
Vous aviez
ça.
Des phases, les fameux up and down.
Mais non, justement, non. Moi j'avais que les downs, moi.
Oui, c'est curieux.
J'avais que les downs et pourtant, ils m'ont donné ce lithium. Alors, je le prends parce que je vais pas aller contre un hôpital comme ça, assez réputé à Paris et tout ça. Donc, je prends ce lithium. Je prends des antidépresseurs également. Et puis, je vois une psy toutes les semaines.
Alors, psychiatre ou
psychiatre.
Psychiatre, donc elle est aussi médecin.
Psychiatre.
Elle peut jeter un œil sur le traitement en même temps.
Elle jette un œil sur le traitement, exactement.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'avec elle, on fait plus. C'est plus du dialogue, en fait. On parle plus tous les deux ensemble. Je vous dirais que sur les 35 minutes qu'on a ensemble, il y a 30 minutes de conversation et 5 minutes d'ordonnance, quoi, en fait.
Et qu'est-ce qui remonte au fil de ces conversations?
Eh ben, ce qui remonte, c'est un grand mal-être en fait que j'ai toujours eu depuis toujours, un grand manque de confiance en moi. Ça a toujours été comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je suis fils unique en fait, et j'ai toujours eu tout ce que je voulais dans la vie. Mes parents ont été super avec moi. Bon, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans, mais ils ont été géniaux. Enfin bon, il y a pas de souci avec eux, mais je pense que c'est moi. J'ai une énorme anxiété en moi tout le temps en fait, soit pour tout et n'importe quoi. J'ai une espèce d'anxiété latente qui est là, qui est présente et qui ne s'en va pas, quoi.
Est-ce que vous savez, Pierre, si pendant la grossesse de votre maman, il s'est passé des choses?
Non, alors ça, je ne serais pas capable de vous le dire, non. Non.
C'est intéressant, quelquefois, d'aller discuter de ça avec sa maman pour comprendre, ouais, qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Si elle a vécu elle-même un stress, et même, ouais, encore plus loin, du côté des grands-parents. Est-ce qu'il y a eu des chocs émotionnels? Est-ce qu'il y a eu des dépressions? Est-ce qu'il y a eu des maladies?
D'accord.
Parce que tout ça, ça se transmet.
Ben écoutez, à ce que je sache, en tout cas, il y en a pas eu, que ce soit ni du côté de mon père ni du côté de ma mère, il n'y a pas eu de dépression sévère comme ça. Il y a eu des côtés un peu anxieux. Je voyais ma mère prendre du Lexomil, par exemple, le matin avant d'aller au travail et tout. Mon père, de temps en temps, avant des rendez-vous et tout.
Quelquefois, c'est ce que je dis, on prend l'angoisse au biberon, hein.
Ouais,
c'est pas forcément la vôtre. Si maman prenait déjà du Lexomil le matin, c'est pas anodin. Hein.
Ouais,
ça veut dire
que
c'est pas une maman qui était posée et sereine.
Ouais. Ben, je l'ai vu faire. Elle travaillait dans un grand groupe de télévision, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de choses comme ça et tout. Et c'est vrai que je l'ai vu faire et j'ai vu mon père également le faire. Lui, il est réalisateur de télévision et avant des gros rendez-vous, des choses comme ça, je me souviens le voir en train de prendre un quart de Lexomil et tout ça
C'est
en me
intéressant
disant
ça,
ça
c'est
va me...
intéressant.
Ouais,
Peut-être
ouais, ouais.
pourriez-vous travailler sur ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas dans cette angoisse.
Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toujours été quelqu'un de très anxieux, du plus lointain que je me souvienne. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je vomissais avant d'aller à l'école, j'étais stressé, j'étais pas bien, j'ai toujours eu un terrain quand même comme ça très très anxieux, qui m'a un peu gâché la vie
Et
pour
oui, mais c'est
tout vous dire.
pour ça que je vous dis aller chercher un petit peu en amont, parce qu'il n'y a pas de raison. Un enfant à qui n'est pas arrivé de traumatisme particulier n'a aucune raison d'être dans des angoisses comme ça. C'est pour ça que je me permets de vous orienter vers cette réflexion-là, qui est de se dire d'où elle vient et à qui elle est cette angoisse-là. Parce que vous
D'accord.
avez pu porter sur vos épaules de ce petit garçon des émotions, des angoisses qui ne sont pas les vôtres.
Possible. Il va falloir que je creuse de ce côté-là.
Oui. Maintenant, ce qui m'interpelle un petit peu dans ce que vous me dites, c'est cette histoire de lithium, parce que enfin, il me semble que les symptômes d'une dépression et les symptômes d'une bipolarité ne sont pas les mêmes.
Non.
Et ça n'a pas l'air d'aller mieux malgré le lithium.
Ben, pas vraiment. Enfin, je vous dirais que ça va un peu mieux parce qu'il y a eu un moment où j'étais vraiment en phase suicidaire et tout. J'ai quand même essayé de mettre fin à mes jours pendant 3 fois, dont une fois où je suis resté 2 semaines et demie dans le coma. Donc, ça a été assez dur, assez lourd. Maintenant, le lithium, vous savez, on vous donne quelque chose à prendre comme ça et tout, vous le prenez et puis, bah oui, bah, on suit ce qu'on nous dit comme un bon petit soldat. Mais je sais pas si c'est pour le mieux, hein, honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais pas si je l'arrêtais, comment je serais demain.
La psychiatre avec laquelle vous faites une thérapie, est-ce que c'est elle qui vous donne ce traitement?
Non,
Non.
c'était la Pitié-Salpêtrière, ouais,
Oui, c'est
c'était
ce qui me semble.
l'hôpital.
Donc
Ouais.
elle peut elle avoir un recul par rapport à ça. Et
Elle
peut-être
peut avoir un recul. Mais en fait, pour être honnête avec vous, en fait, je vois cette psychiatre, mais à côté de ça, je vois un autre psychiatre dans un CMP, dans une CMP, qui est à côté de chez moi. Et avec elle, mais ça dure exactement 5 minutes, montre en main. Elle me remet les mêmes médicaments à chaque fois. Elle me dit de temps en temps, tiens, on va faire une lithémie, donc pour un petit peu voir un peu votre taux de lithium et tout que vous avez dans le sang et tout ça. Mais le dialogue s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de grands échanges, quoi.
Mais pourquoi vous, je ne comprends pas pourquoi vous envoyez deux, puisque la première avec qui vous avez des échanges, elle est aussi psychiatre et donc apte à faire une ordonnance.
En fait,
Quel
c'est
est
parce
l'intérêt d'aller
que.
au CMP?
Ben en fait, c'est parce que ça permet de nous laisser plus de discussions. Ça nous permet d'échanger un petit peu plus. Et le CMP, de toute façon, c'est à côté de chez moi. C'est dans le 9e. C'est vraiment juste à côté. Et j'y vais, mais c'est uniquement pour l'ordonnance. Mais oui, c'est vrai que ça peut paraître assez.
Eh
Mais
oui.
il y a un moment, c'est elle qui me l'a dit, en fait, qui m'a dit, écoutez, moi, je mets trop de temps à écrire les médicaments dont vous avez besoin et tout. J'aimerais qu'on discute plus longtemps ensemble. Donc, ce serait bien qu'on vous redirige vers une CMP pour ça, voilà.
Ça me paraît
Donc,
un petit peu curieux comme discours. Parce que
ouais.
l'ordonnance, vous ne la refaites pas toutes les semaines, donc ça ne prend pas non plus des heures d'écriture. Ça
Non,
paraît
non,
un
je
peu
suis
exagéré
d'accord.
quand même.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, quand je le vois comme ça, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous, mais je sais pas si c'est mis en place comme ça et.
C'est ça, c'est quelquefois on a installé une routine et on se laisse porter parce que c'est plus facile, parce qu'on a peur du changement, parce qu'on n'a pas l'énergie, mais ça vaut peut-être le coup faire un petit pas de côté et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Moi, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis un peu perdu. Je rentre dans une nouvelle phase de ma vie où, voilà, comme je vous le disais, j'ai 40 ans et j'ai envie de certaines choses dans la vie, dont avoir des enfants, vraiment, définitivement. Et je sais pas, j'ai du mal à avancer, là. J'ai vraiment du mal à avancer dans ma vie. Que ce soit professionnel ou sentimental, j'ai vraiment, c'est compliqué.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose que la dépression vient vous dire que vous n'avez pas encore touché du doigt, probablement.
Ouais, je pense, ouais.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, je sais que c'est difficile, mais c'est par petits pas que ça se fait. C'est des petits progrès jour après jour. Se fixer des petits objectifs, parce que quand on en a des trop grands, on est tout de suite découragé en disant, ça de toute façon, j'y arriverai pas, c'est même pas la peine que j'essaye. Et quand on, à l'inverse, quand on se fixe des petits objectifs, et quand je parle de petits objectifs, c'est tout petit, c'est prendre deux moments dans la journée pour méditer, aller marcher en forêt, se faire un tout petit plaisir, s'acheter un petit livre ou quelque chose qui nous plaît, se faire couler un bain, des petites choses de la vie, mais qui sont des choses qui font du bien.
Alors ça, je le fais avec du sport.
Ah ben voilà, ça c'est extrêmement important, le sport aussi.
On
le
sait. Énormément.
La nourriture, est-ce que vous vous nourrissez correctement ?
La nourriture, ouais, je me nourris correctement, ça y a pas de souci. Du sport, bon là c'est un peu compliqué parce qu'avec les fortes chaleurs qu'il fait, c'est vrai que j'ai l'habitude de courir en extérieur et que c'est un peu complexe.
C'est fini mais demain, c'est vrai ça se termine, ça y est.
C'est fini demain. j'ai mon excuse qui termine demain là, c'est bon là. Je vais pouvoir y retourner. Et en fait, non, mais c'est vrai que sinon, je me réalisais beaucoup dans le sport et ça me faisait un bien fou. Moi, j'étais surtout sur le cardio, que ce soit la course, le rameur, le vélo, des choses comme ça et tout. J'étais vraiment...
Mais on le sait hein, que c'est l'un des meilleurs antidépresseurs, le sport.
Ah ouais, non, c'est génial. Le sport, honnêtement, là, si un auditeur ou plusieurs, en tout cas, peuvent m'entendre, je sais que c'est compliqué, c'est dur de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y met, il y a tellement un espèce d'épanouissement après le sport. Moi, j'allais dans ma salle, là je suis plus à Paris, mais là je suis chez ma mère dans le sud de la France. Mais c'est vrai que quand je vais à la salle et que je transpire pendant 2 heures et que je rentre chez moi, et ben je suis bien, quoi.
Mais c'est reconnu, hein, c'est tout à fait reconnu.
Ah oui,
maintenant,
non, vraiment,
je me permets d'insister sur la nutrition parce qu'on s'est rendu compte de plus en plus que quand on est bien suivi, vous pourriez par exemple aller voir une naturopathe, une nutritionniste. Quand on est bien suivi sur ces plans-là, ça change les choses pour la dépression. Quand on arrive à se nourrir... Ouais. Attention, se nourrir correctement, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas une grille de nourriture correcte ou pas correcte. Ça dépend de ce qu'on est, de ce qu'on a. Donc, c'est pas bien forcément sûr. Simplement dire « Ok, je me nourris bien », c'est peut-être aller voir quelqu'un dont c'est le métier. D'abord une nutritionniste, ensuite une naturopathe pour voir comment vous pouvez aussi vous aider avec des choses naturelles. Et vous établir des menus qui peuvent petit à petit vous aider à faire remonter aussi ce fichu taux de sérotonine qui est trop bas et qui aide aussi à sortir de la dépression. On sait maintenant à quel point la nutrition joue dans ce domaine-là, vraiment.
Bah écoutez, non, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'étudie d'un peu plus près, ça, effectivement, parce que j'ai l'impression de bien me nourrir, mais je ne sais pas si je le fais vraiment. Et puis, il y a quand même un point que j'ai occulté depuis le début de notre conversation, Sabine, c'est que j'ai un petit souci depuis quelque temps avec l'alcool, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le vin, le vin blanc, que j'ai tendance à consommer de façon excessive le soir, et qui est devenu un peu problématique.
Ça a commencé comment, ça ?
Ça a commencé. Comment ça a commencé, ça ? C'est drôle parce que c'est assez récent, en fait. Ça a commencé il y a peut-être 6 mois, je dirais. En fait, c'est le confinement. Le confinement a été terrible, en fait, parce que le confinement, je m'ennuyais tellement que je me disais, en rentrant, je vais me servir un petit verre de vin blanc et tout ça, ça va aller et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est devenu un verre, puis deux verres, puis trois verres, puis quatre verres.
Ça, c'est très important, Pierre, ce que vous me dites là, parce que Je vais faire traiter de rabat-joie, mais notre corps n'est pas fait pour absorber de l'alcool, en aucun cas. On a beau dire c'est convivial, c'est sympa, c'est ceci, c'est cela, en aucun cas. Et quand on est en dépression, vous n'aidez pas votre corps à aller mieux en faisant ça, loin de là. Quand je parle de nutrition, il s'agit aussi de ce qu'on ingurgite en boisson, c'est la même chose. Enfin, c'est tout ce qu'on met dans notre corps. Et là, vous détruisez tout ce que vous essayez de construire de l'autre côté en faisant ça. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous faire aider là.
Bah, on en parle avec ma psychiatre, justement. Elle me dit, écoutez, Pierre, faudrait peut-être penser à aller voir les alcooliques anonymes et tout ça. Après tout ce que j'ai traversé, je me dis ça encore maintenant, là et tout, mais c'est pas possible, là et tout. Et j'ai l'impression que ma vie part dans tous les sens, là. En tout cas, pas dans le sens dans lequel je l'aurais souhaité, mais...
Est-ce que vous avez essayé des thérapies parallèles, d'autres?
J'ai essayé des thérapies comportementales et cognitives.
Oui. Je pense à l'acupuncture, je pense à l'auriculothérapie, à la réflexologie plantaire aussi, tout ça. Tout sont des choses qui aident.
J'ai beaucoup essayé l'acupuncture quand j'habitais à Montréal. Mais ma dépression, on ne va pas se mentir, elle était trop forte pour... L'acupuncture, le
sport, une fois de plus, il ne s'agit pas de régler le problème avec un truc. C'est une accumulation de petites choses qu'on met sur le chemin pour tenir debout qui nous aide. Ce n'est pas une thérapie ou une médecine parallèle, c'est l'ensemble. C'est l'alchimie de l'ensemble qui fait qu'on s'aide, si vous voulez.
D'accord.
Et je me demande si vous avez vraiment ouvert toutes les portes qui pourraient vous aider. J'en suis pas complètement sûre en vous écoutant.
Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr. J'essaye de faire le maximum. Je vous dis, il y a le sport et tout. Maintenant, il y a l'alcool aussi qui est rentré en jeu et dont j'ai beaucoup de mal à me défaire. Le côté quand je sors, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je sors avec mes amis le soir, le vendredi soir, samedi soir, il faut que je boive et tout pour me sentir le plus à l'aise possible.
Mais
parce
ça, c'est,
que je suis
c'est,
tellement...
Oui, mais c'est une fuite en avant, ça, Pierre. C'est une fuite en avant.
Ouais.
Et ça ne va pas vous aider. Je ne suis pas sûre qu'il faille commencer par les alcooliques anonymes. Ça vous paraît effectivement un peu compliqué là tout de suite et je peux le comprendre. Mais vous faire aider par d'autres thérapeutes là-dessus, ça me paraît vraiment urgent.
D'accord.
Arriver à gérer déjà ça, pour vous faire du bien avec ce que vous buvez, ce que vous mangez. Et avant qu'on se sépare, parce qu'il va te faire des infos, j'aimerais vous conseiller, il y a deux ou trois bouquins sur la dépression, si vous avez envie de lire, qui sont vraiment bien.
Il y en a un de Guy Birkenhaus.
Guy Birkenhaus qui s'appelle « Vous m'avez manqué ».
Guy Birkenhaus, « Vous m'avez manqué », que j'ai lu, qui est très bon, vous m'aviez conseillé à l'époque, en fait.
Qui est plein d'humour. Il y en a un qui s'appelle « Rester en vie » par Matt Haig.
Ouais. Matt Haig, « Rester en vie », d'accord.
Matt Haig, H-A-I-G, « Rester en vie ».
H-A-I-G, d'accord.
Et puis, vous savez, dans la série Pour les nuls, la visualisation positive, c'est quelque chose qui pourrait vous aider aussi.
D'accord.
Pierre, les infos arrivent, ils vont me mettre dehors si je ne vous quitte pas. Je vous embrasse très fort.
Non, ça marche. Je vous embrasse fort aussi.
Et
à bientôt.
Revenez me donner vos nouvelles. Je vous embrasse très fort.
Au revoir, Sabine.
Au revoir,
à bientôt.
Pierre. Vous écoutez Europe 1, il est minuit, l'heure des infos avec Rémi Botsaron. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. On commence évidemment avec le football et la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire ce soir à l'arraché face à l'Atalanta Bergame de Buzyn. Julien Froment, vous êtes à Lisbonne pour Europe 1. Racontez-nous ce match. Les Parisiens ont tout renversé dans les dernières minutes.
Oui, un scénario complètement fou qui a vu le Paris Saint-Germain se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pourtant, c'était mal embarqué pour les Parisiens après l'ouverture du score à la 26e minute des Bergamasques par l'intermédiaire de Mario Pašalić. Mais Paris s'est montré patient. Paris a su profiter aussi de l'entrée très concluante de Kylian Mbappé. Et c'est dans les derniers instants que le Paris Saint-Germain a su faire la différence. Égalisation de Marquinhos à la 90e. Et le héros de ce quart de finale, c'est Éric-Maxime Choupo-Moting, tant décrié tout au long de la saison, et bien le Camerounais qui offre la qualification aux Parisiens à la 94e minute de jeu. 2-1 pour Paris. Les Parisiens qui joueront donc les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 25 ans.
Merci Julien Froment à Lisbonne pour Europe 1. On sent dans votre voix toute l'intensité de cette fin de match. La demi-finale du PSG, ce sera mardi. On connaîtra son adversaire demain. Ce sera soit Leipzig, soit l'Atlético Madrid. L'autre club français, l'Olympique Lyonnais, jouera son quart de finale samedi soir face aux Anglais de Manchester City. Après Paris et Marseille, notamment, c'est au tour de Nantes et de Bordeaux d'imposer le port du masque dans certaines zones très fréquentées. Pour Nantes, ce sera le cas dès vendredi dans l'hypercentre. À Bordeaux, la mesure entrera en vigueur samedi, notamment dans la fameuse rue Sainte-Catherine, la plus longue rue piétonne d'Europe. De nouvelles restrictions décidées alors que la situation sanitaire est en nette dégradation en France. Selon la Direction générale de la Santé, plus de 2500 contaminations au Covid-19 enregistrées au cours des dernières 24 heures. Et en Guadeloupe, ce sont 50 cas qui sont apparus depuis lundi. Et le port du masque est désormais recommandé partout sur l'île par la préfecture et l'Agence régionale de santé. L'Amérique est en manque criant de dirigeants. Ce sont les mots de Kamala Harris il y a quelques instants lors de sa première apparition aux côtés de Joe Biden, dont elle est depuis hier la colistière. Ça se passait dans l'état du Delaware, le fief du candidat démocrate à la présidentielle. La sénatrice noire de Californie a également affirmé que les États-Unis étaient en plein examen de conscience face au racisme et à l'injustice généralisée. En Biélorussie, le centre de Minsk, la capitale, a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre ce soir au quatrième jour de contestation de la réélection du président autoritaire Alexandre Loukachenko. Les autorités ont annoncé ce soir la mort d'un manifestant détenu depuis dimanche à Gomel, la deuxième ville la plus importante du pays. Des milliers d'opposants ont été arrêtés depuis dimanche. Aujourd'hui, lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a dit sa très grande préoccupation face à cette situation en Biélorussie. Au Liban, plusieurs ministres anciens ou actuels vont être interrogés par le parquet. Ils devront tenter d'expliquer la présence pendant des années dans le port de Beyrouth de ces centaines de tonnes de nitrate d'ammonium qui ont provoqué une explosion dévastatrice il y a 8 jours. Une explosion qui a fait au moins 171 morts et 6000 blessés, alors que selon l'OMS, plus de la moitié des hôpitaux de la capitale libanaise sont désormais hors service. Le président du Liban, Michel Aoun, estime aujourd'hui le montant des dégâts à 15 milliards de dollars. Et puis l'opération de pompage est terminée à l'île Maurice sur le bateau échoué depuis la fin juillet et dont les hydrocarbures ont souillé les eaux jadis turquoises et le massif corallien. Près de 1000 tonnes se sont déversées dans la mer sur les 4000 qu'il contenait. Mais il n'y aura donc a priori pas de nouvelles fuites alors que ce vraquier menace de se briser en deux à tout moment. La météo, Marlène Durel, la chaleur s'estompe tout doucement. 44 départements sont toujours en vigilance orange canicule et 13 en vigilance orange orage, notamment en Normandie où il faut le souligner. Au passage, ces orages ont provoqué aujourd'hui plus de 250 interventions de pompiers.
Et la dégradation orageuse va se poursuivre demain, Rémi. Des orages qui concerneront encore une grande partie du pays, apportant des cumuls de pluie conséquents. La zone la plus instable englobera le nord Aquitaine, le Limousin, Massif Central, le centre-val de Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et puis un petit peu plus tard dans la journée, la Champagne-Ardenne et la Bourgogne. Le temps restera finalement calme sur le flanc est. Belle journée estivale même en poursuivant vers la Côte d'Azur et la Corse. Les températures maximales seront en baisse partout. 23 degrés à Tarbes, à Limoges, à La Rochelle, à Brest, 24 à Tours, 27 à Toulouse, Paris même va repasser sous la barre des 30 degrés avec 28 au meilleur de la journée. À l'est, on va les dépasser encore avec 33 à Nancy, à Strasbourg, 33 également à Besançon, à Dijon, à Lyon, il fera 32 à Lille. Puis autour de la Grande Bleue, comptez 29 à 32 degrés jusqu'à 34 à Ajaccio.
Merci Marlène Duret. Tout de suite sur Europe 1 à minuit passé de 5 minutes, vous retrouvez la Libre Antenne et Sabine Marin.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre soirée. Nous sommes ensemble et en direct sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à partager. Vous pouvez bien sûr continuer à composer le 39-21 si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Pour réagir par SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous par mail, c'est facile. Une seule adresse, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir Sabine. Je suis enchantée de vous connaître et puis je vous écoute souvent sur la Libre Antenne depuis le confinement en fait.
Ah oui.
Donc j'écoutais pas la Libre Antenne, je connaissais pas.
Bienvenue donc, alors dans notre grande famille.
Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Donc voilà, moi j'ai deux gros soucis. C'est un souci, c'est ma fille qui est un enfant placé, qui a assez... Mais elle va bien. Quoi. En fait, c'est mes problèmes personnels parce qu'en fait c'est moi qui en souffre. Donc elle est placée dans une famille où elle est bien. Mais moi je suis mal parce que bah, c'est pas avec moi, c'est mon enfant. Quoi. J'ai un seul enfant. Deuxième souci, c'est que j'ai décompensé pendant toutes ces années où j'ai pas pu la récupérer. Mmh. Ben, ma dépression a continué de... Enfin, je me débat, puis je suis suivi, puis en fait, les traitements qu'on me donne ne conviennent pas. Et donc, du coup, bon, je sais pas si je suis dépressive ou bipolaire. Et finalement, mon traitement de... d'antidépresseur, je le prends pas parce que j'ai des effets secondaires qui sont insupportables. Quoi.
Qu'est-ce que vous avez comme effet secondaire, par exemple?
Des bouffées de chaleur, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau, d'électricité dans le cerveau.
Mais est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Parce qu'il y a différentes molécules qu'on peut changer à ce moment-là si ça ne fonctionne pas avec l'un, non?
Oui, mais le problème, c'est que mon médecin m'a dit vous n'avez pas besoin d'antidépresseur, il faut juste vous soigner par rapport à... avec une thérapie psychologique, d'accord. Je veux bien le croire, mais bon, quand je prends mes antidépresseurs, je pleure pas le matin, parce que tous les matins, je pleure au moins une heure avant de démarrer, quoi.
Alors, racontez-moi un petit peu, Nadia, si vous le voulez bien, l'historique de tout ça. Comment ça a commencé, cette histoire avec votre fille? Avec un homme, à la base, j'imagine, qui a été son papa.
Oui, c'était mon mari, mon ex-mari, avec qui je me suis mariée. Bon, et puis, au bout de 3 ans de mariage, on a eu une fille. Oui. Puis au moment où je suis tombée enceinte, il a changé. C'est là qu'après, petit à petit, je me suis rendu compte que il avait des... C'est quand j'ai vu une émission sur les relations toxiques que j'ai vu mon mari à travers cette relation. Et je me suis dit, mais je suis tout à fait dans ce cadre-là. Dans ce schéma où la personne me harcèle psychologiquement. Et puis que moi, j'essaie de me... Enfin, j'essayais de composer avec au départ en me disant je vais le soigner. Mais finalement, j'ai compris que je ne pouvais rien faire.
Nadia, pardonnez-moi, mais le son n'est pas très bon. Je ne sais pas comment on peut arranger les choses. Quel type de téléphone avez-vous?
Ah, vous m'entendez mal. Alors, c'est un fixe.
Ça grésille beaucoup et ça résonne en même temps. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une radio allumée quelque part près de vous, quelque chose, une télé?
Oui, je voulais que j'éteigne Internet.
Peut-être, il y a quelque chose qui grésille en fond.
En fait, c'est parce que j'ai votre radio que j'ai allumée. Je vais l'éteindre, ça va aller mieux.
Je pense que ça peut nous aider. On va voir.
Parce que moi, je vous entends bien. J'ai pas regardé, j'écoute pas ma voix à la radio parce que sinon, j'aime pas trop. Quoi.
Elle est très bien, votre voix, Nadia.
Bon, ben, c'est gentil.
Et ce que j'aimerais, c'est l'entendre de manière claire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Bon, alors, je vais même éteindre Internet, comme ça. On verra bien. Normalement, ça passe.
Je ne sais pas pourquoi ça grésille comme ça. On dirait vraiment qu'il y a une perturbation sur la ligne.
J'ai demandé qu'on m'appelle sur mon fixe parce qu'en fait, vous êtes super gentil de me rappeler parce que mon portable, ici, ils ont fait des super travaux. Dans les cours, on n'entend rien. Et là, vous m'entendez mieux?
C'est mieux, non, on dirait. Je pense, non, un petit peu. Allez-y.
Bon. Alors, écoutez, là, de toute façon, ça ne sert à rien que je me mette à la fenêtre parce que c'est un fixe.
Au-delà, on passe au pigeon voyageur, sinon.
Mais je vous écris une lettre, c'est mieux.
Faites quelques signes de fumée par la fenêtre et je traduirai.
Bon, écoutez, alors donc je vais essayer de résumer parce que je me rappelle que le fil d'Ariane, c'est une association pour les parents d'enfants placés. Ils m'ont dit de résumer une situation qui était tellement compliquée.
Vous étiez en train de me dire que vous avez d'un seul coup vu votre mari différemment et que vous avez compris à quel point il vous manipulait.
Oui, ouais. Et un jour, il m'a frappée à 100. Et là, ça a été...
Pour quelle raison il a fait ça?
Parce qu'il avait bu trop de vin blanc et qu'au lieu de frapper sur ses objets, il a frappé sur moi.
La petite avait quel âge à ce moment-là?
Elle avait 1 an.
Ah oui.
Et il l'avait dans les bras en plus. Donc, à ce moment-là. Mmh. Et donc, après, c'était plus la même chose.
Là, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai commencé à devenir bizarre. En plus de ça, j'ai demandé de l'aide parce que je me sentais trop triste pour être avec un bébé de 1 an. J'ai demandé de l'aide. Alors, on m'a dit, oui, on peut vous garder votre enfant pendant 3 semaines. Vous allez vous reposer. J'ai dit, je veux un endroit où je me repose avec elle. Ils m'ont dit, non, ça n'existe pas. Alors, bon, je vais me reposer dans une clinique. Et puis, quand je suis revenue, j'ai vu que ma vie n'était plus là. J'étais trop mal. Au bout de 4 jours, j'ai dit, non, c'est pas possible. On était collés l'une à l'autre. On ne peut pas nous séparer. J'étais à la ZEU, je leur ai dit, moi, je reprends. Je savais pas que c'était l'aide de sa enfance. Moi, je croyais que c'était des gens qui allaient nous garder notre enfant pendant 3 semaines ou le temps qu'on veut, quoi.
Mmh. Et en fait, oui, ils l'ont placé, c'est ça?
En fait, ils l'ont placé au début pour 3 semaines. Et quand j'ai commencé à crier sur eux et qu'ils ont vu que je criais d'une manière... Parce que j'étais très virulente dans mes paroles. Ouais. Parce que je venais d'être tapée. Et ça, je l'ai caché. C'est ce qui a tout vrillé dans mon divorce et dans... Parce que je l'ai caché. J'ai voulu le couvrir, mon mari.
Pour quelle
j'ai
raison
le couvrir. Parce qu'il venait de sortir de prison pour alcoolémie au volant et pour récidive. Donc je me suis dit, je vais pas dire que c'est lui. C'est tout. Et j'ai pas porté plainte. Donc après, bon. Et voilà, donc pourquoi, pour quelle raison? Parce que oui, parce que j'avais peur pour lui. Il venait de faire 2 mois de prison, Sabine. Vous comprenez?
Oui, oui et non, parce que c'est très grave ce qu'il a fait. Et vous avez pris sur vous en plus de le protéger.
En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai eu très peur. Sur le moment, j'ai eu tellement peur, parce qu'il m'a fait, il a tapé tellement fort que j'ai jamais vu autant de sang. Et j'ai eu peur pour moi, je lui ai appelé les pompiers. Et il n'a rien voulu. Il a rien voulu faire, il a pris une serpillère, il a séché tout le sang. Et heureusement que mon nez s'est remis, je respire, quoi. Parce que, voilà, j'ai eu très peur. Très mal. Et après, j'étais traumatisée pendant au moins 15 jours. Je parlais plus à personne. Ma voisine m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nadia? T'as un coq? J'ai dit, non, mais c'est mon mari qui m'a frappée, mais c'est de ma faute. Pour moi, c'était de ma faute. Voilà.
Comme malheureusement trop souvent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, après cette première période de repos, quand vous avez compris que vous n'alliez pas récupérer la petite?
Après, c'était une série de catastrophes parce que j'ai porté plainte pour une deuxième fois où il m'a violentée. Et là, il a fait 2 mois de prison. Il est revenu. Il ne pouvait plus m'approcher. Donc, on n'a jamais pu récupérer notre enfant. Mais je la voyais tout le temps. Mais je ne pouvais pas la récupérer pour de bon parce que j'avais un mari avec lequel je ne m'entendais pas du tout.
Dans quel cadre vous pouviez la voir, la petite?
Au début, ils m'ont mis en visite médiatisée, j'ai tout eu. Hein. Mmh, maintenant, j'ai des droits de garde, des droits de visite.
Mais là, on parle d'une enfant, mais qui a quel âge aujourd'hui?
Elle a 16 ans. Elle
a 16 ans, oui. C'est ça.
Une adolescente. Et elle est magnifique, elle est belle, elle est en bonne santé. Parce que j'ai tellement eu peur pour elle. Mmh. Et elle a réussi dans les études. Je suis trop contente pour ça.
C'est une sacrée fierté pour vous, j'imagine, ça.
Ah oui, surtout grande fierté pour toute ma famille.
Et vous en êtes où avec cet homme?
Eh ben, il se cache. Hein. C'est un pervers manipulateur narcissique qui se cache parce qu'il ne peut plus rien avoir de moi. Il est revenu 10 ans après pour me demander pardon. Je dis pardon de quoi? J'ai t'as fait des fausses attestations de témoins pour gagner un divorce, pour faute contre moi. Mais t'as tout gagné, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il voulait refaire sa vie avec moi, on se remarie. Je dis mais... Vous savez, il est dans son monde. Hein.
C'était il y a combien de temps qu'il est revenu comme ça faire une tentative?
Ça fait 3 ans.
Ah oui, d'accord. Et depuis?
Depuis, il s'est vexé, il est reparti, plus de nouvelles.
Il vous laisse tranquille au moins?
Ah oui. Ah mais depuis qu'il a fait de la prison, ça paye quand même. Parce qu'il tapait sur la table, il me dit, je ne te frapperai pas, je ne te frapperai. Mais il tapait fort sur la table, je dis, ça va, tu vas casser la table. Si d'accord, j'ai compris, tu ne frapperas pas. T'as bien raison de ne pas me frapper parce que c'est le 17 direct. Mmh. Parce que moi, je frappe jamais. Donc, j'aime pas qu'on me frappe. Quoi. Je déteste la violence. Je supporte pas. C'est vu qu'on est des êtres humains, on peut communiquer, même si on se met en colère. La colère peut. C'est vrai que quand on est énervé, mais moi, je peux crier fort. Ce qui me porte préjudice, ce qui m'a beaucoup porté préjudice. Et c'est à cause de ça aussi que j'ai eu des problèmes des éducateurs parce que je criais sur mon bébé. Elle avait qu'un an. Hein.
Ça peut donner l'image de vous de quelqu'un de violent.
Oui, de quelqu'un d'agressif, oui. Ils ont eu peur de moi, parce qu'ils ne savaient pas.
Alors que ça n'est pas le cas, d'après ce que vous me dites. Vous n'êtes pas quelqu'un de violent du tout. Hein. C'est la peur qui vous fait réagir comme ça.
Voilà. Je suis comme une bête apeurée, quoi. Ouais. Comme une gazelle qui se sauve. Mais jamais je frapperai. Jamais de la vie. Donc voilà l'histoire. Maintenant, je suis devenue névrosée, sans ma fille, que j'ai élevée, enfin avec amour, que j'essaie de. Que je lui cours après depuis 15 ans. Ça va, elle part en vacances avec moi. Quand elle revient, elle est obligée de revenir chez sa famille d'accueil. Alors c'est une torture. On a le droit de partir en vacances, mais quand on revient, je suis obligée de la. C'est pas grave, au moins je la vois grandir. C'est pas grave, au moins elle va bien.
La famille d'accueil, comme ça, c'est jusqu'aux 18 ans, c'est ça?
Oui.
Donc dans 2 ans, elle est libre?
Oui. Il faut absolument que je trouve un travail. Vous savez, Sabine, moi, j'ai un bac plus 4, j'ai fait 4 ans de médecine, et j'ai arrêté ma médecine. Mmh. Alors bon, c'est une grosse galère, parce que j'aimerais bien me... Maintenant, je sais pas, je crois que j'en suis arrivée à un point où je veux plus faire de... Je veux plus faire de... Parce que je suis trop fragile, donc je vais me retourner vers la musique, comme je joue du piano. J'ai décidé, je vais acheter un clavier, et je vais donner des cours de piano. Mon assistante sociale m'a dit, il faut être déclaré, sinon, eh ben, je vais être déclaré, et puis c'est tout. J'ai le droit de donner des cours de piano.
Bien sûr, si vous montez une micro-entreprise, par exemple.
Voilà.
Vous devenez micro-entrepreneur et vous donnez vos cours de piano, si c'est quelque chose qui
peut... Ma prof de piano m'a dit, Nadia, tu as le droit de prendre mes élèves, je suis trop âgée, je me rappelle, quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Donc, je peux reprendre et puis travailler ça, parce que là, je suis sans activité, c'est une chose qui rend dingue. À part le ménage, sans faire les courses, enfin voilà quoi.
Et puis, ce qui est important pour tenir debout, c'est d'avoir des projets. Donc déjà, d'avoir une perspective... d'autonomie, de liberté, de travail, et puis de cette jeune fille qui grandit et qui va être libre d'être avec vous plus souvent si elle le désire.
Oui, voilà.
Tout ça, ça devrait aussi vous permettre quand même de tenir debout. De vous dire, voilà, il y a quand même des belles choses devant moi là qui arrivent maintenant.
Et oui, mais il faut que je sois aidée, je ne sais pas par qui. Moi, je n'arrive pas à comprendre qui peut m'aider. Comme je suis fille de psychiatre, chose que je ne vous ai pas dite, c'est une grosse catastrophe, parce que mon père a toujours voulu essayer de me soigner. Et je ne veux pas qu'il me soigne, et puis c'est un gros conflit entre mon papa et moi que j'aime énormément.
Mais c'est très voilà. Curieux, parce qu'on sait très bien qu'on ne soigne jamais les gens de sa famille. C'est quand même la base.
Il s'obstine. Il est obstiné, il me dit je vais faire comme Freud. Mais Freud a soigné sa fille. Je ne sais pas si Freud a soigné sa fille. J'ai pas assez lu pour ça.
Je n'ai jamais entendu ça, en tout cas. Je ne pourrais pas l'affirmer, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Il me semble quand même que la base en thérapie, c'est de ne jamais s'occuper de ses proches.
Voilà,
on est beaucoup trop impliqué émotionnellement pour avoir une aide juste.
Mais de toute façon, il ne m'impose pas. C'est-à-dire qu'il me dit, en attendant que tu ne trouves pas un thérapeute qui te convienne, Nadia, ben, je suis là.
Et pourquoi vous ne trouvez pas ce thérapeute qui vous conviendrait?
En fait, parce que comme je suis en ce moment, ben, je suis sans activité, donc j'ai peu de moyens. Je ne me vois pas payer 70 euros à la séance. Si je prends une séance par semaine ou deux, je m'en sortirai jamais.
Alors d'abord, vous savez qu'il y a les CMP, et puis il y a aussi des psychiatres qui sont médecins, et donc qui sont remboursés, dont les séances sont remboursées.
Ah bon?
Ben oui.
D'accord. Je vais me renseigner, parce que moi j'habite dans le 9e arrondissement, à Paris, enfin chez mes parents. Je suis donc chez mes parents, j'ai un petit toit dans les Yvelines qui est à moi. Donc je peux quand même reconstruire.
Je pense que l'heure est maintenant à la reconstruction pour vous, qu'il faut mettre des petits jalons comme ça sur votre chemin, vous faire aider par un thérapeute en qui vous avez confiance, reprendre pied professionnellement et recommencer à faire des projets avec votre ex-petite fille, votre jeune fille, votre belle jeune fille, parce que ça c'est quand même une sacrée fierté pour une maman aussi.
Heureusement qu'elle aime la vie. Elle est à Montpellier, elle est en vacances. Bon, tant mieux. Vous savez, bon, j'ai de la chance parce qu'elle a une famille d'accueil qui est adorable. Franchement, j'ai rien à dire. Qui est superbe, elle mange à sa faim, elle est comme chez elle, quoi.
Non, ça, c'est déjà une sacrée chance d'avoir confiance et de savoir qu'elle est entre de bonnes mains.
Et puis, à chaque fois, l'assistante maternelle m'a toujours dit s'il y a un problème, Nadia, je vous appelle. Elle m'a toujours appelée. Il y avait un souci. Donc, j'ai confiance, quoi.
Bon, c'est une bonne chose. Il y a des jolies choses qui vont arriver, Nadia, maintenant. Trouvez vraiment quelqu'un qui peut vous accompagner sur le plan thérapeutique.
D'accord. Donc, je peux demander à être remboursée une partie de mes séances.
Par les psychiatres qui font des thérapies, oui.
D'accord. Oui. D'accord, très bien. Parce que bon, là, en ce moment, je prends des anxiolytiques, c'est tout. Hein. Et je ne sais pas, comme pour la bipolarité, il paraît qu'il faut des régulateurs de l'humeur. Ou...
Lithium, oui, on en parlait tout à l'heure du lithium.
Oui, mais pour ça, il paraît qu'il faut se faire hospitaliser au moins une semaine. Moi, je suis prête à tout, hein. Pour guérir de ça, parce que c'est une maladie épuisante et comme a dit une des personnes que j'ai entendues, que j'ai écoutées à la radio, elle arrive à une manière, on n'arrive pas à savoir à quel moment on va être dépressif ou triste, quoi.
Oui, bien
elle
sûr.
Est très, voilà, c'est... donc, et puis ça arrive comme ça, puis après, d'un seul coup, ça part, au moment où...
En tout cas, je vous garantis qu'un jour, ça finit par partir. On en sort de la dépression. Je sais que quand on est dedans, on a l'impression d'un tunnel sans fin, mais il y a un bout. Il y a une sortie.
Mais jamais de ma vie, depuis qu'on m'a fait enlever ma fille, jamais de ma vie, je me réveillais en pleurant. Maintenant, j'ai même peur de rester seule. C'est quand même bizarre. C'est grave. Bon.
Non, parce que ce que j'entends là dans tout ce que vous me dites, Nadia, c'est que vous êtes seule pour gérer ça.
Ben oui.
Trop seule. Et là, il est temps de demander de l'aide, vraiment.
Oui.
Ah, c'est l'aide qui arrive déjà, c'est bien.
Bon, écoutez, j'ai tapé sur Internet. J'ai regardé, j'ai quand même la chance d'avoir Internet chez mes parents ici. Et puis, je vais essayer de trouver un psychothérapeute qui me suive.
Ça déjà, et puis la musique, pour avoir des projets professionnels, ça me paraît une bonne idée aussi pour vous, ça.
Oui, parce que j'ai le droit d'avoir un clavier et de donner des cours.
Bah, bien sûr. Bon. Du moment qu'après vous déclarez ça et que vous payez vos cotisations comme tout le monde, ça se passe très bien.
D'accord, très bien. Bon, tant que je ne me fais pas payer, c'est trop gratuit.
Ah bah non, dans ces cas-là, vous n'avez rien à déclarer, évidemment.
D'accord, très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, et je vous souhaite une bonne continuation.
Prenez bien soin de vous, Nadia, vraiment.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous êtes une personne très compétente. Et je ne sais pas si vous parlez de MDR. Moi, j'ai pas besoin d'une psychanalyse, vous croyez ?
Ah, je ne vous connais pas assez, là. Ce n'est pas en discutant 10 minutes au téléphone que je peux vous dire ça. Mais... parlez-en avec un psychiatre, un psychothérapeute, vous verrez vers quoi il vous oriente.
Très bien.
Une psychanalyse, je ne suis pas certaine parce qu'il va falloir longtemps. Et là, je crois qu'il faut mettre un peu le turbo pour que vous alliez mieux rapidement.
Oui. Hein? Oui. D'accord. Mais je préfère un psychologue qu'un psychiatre, vous savez, parce que j'ai des gros conflits avec mon père.
Oui, mais ne faites pas de transfert. Il y a des psychiatres qui sont de très bons psychologues avec qui vous aurez des échanges constructifs.
D'accord. Très bien.
Prenez une femme, il n'y aura pas l'image du père derrière.
Vous êtes psychologue, vous avez fait une psychiatrie psychologie ?
Non.
Non. Je ne sais pas, parce que j'ai un problème, je fais un blocage. J'ai peur des psychiatres, des fois.
Bah, là, il y a quelque chose qui se joue du côté de papa, effectivement, vous le dites vous-même. Hein.
Bah, écoutez, je vais faire mon chemin, je vous enverrai une lettre. Vous en êtes, parce que là, franchement... Et chez mes parents, ça me prend la tête déjà. C'est pas vraiment l'endroit idéal pour évoluer.
Eh bien, disons que ce soir est le premier jour du reste de votre vie. Vous faites un premier pas sur ce nouveau chemin-là de construction.
Merci, Sabine.
Avec de belles choses au bout.
Merci.
Je vous embrasse, Nadia.
Merci, moi aussi. Et bonne continuation et bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et c'est l'appel de Marc que je prends maintenant. Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Bonjour.
Je vous écoute, Marc.
Alors, je vous appelle. En fait, je suis âgé de 48 ans et j'ai toujours eu des gros problèmes d'alcool dans le passé. Et j'ai eu un déclic il y a 2 ans et demi, 3 ans.
Oui.
J'ai décidé de faire une cure qui s'est révélée être une très bonne chose, puisque j'ai arrêté et je n'ai jamais retouché depuis 2 ans et demi.
Bravo, c'était quoi ce déclic ?
Je ne sais pas, la peur de choper, c'était devenu des... Vous voyez, plus le temps passe, plus les consommations augmentent, et la peur, parce que j'allais forcément tomber malade un jour ou l'autre.
Mmh.
Et puis... Voilà, à un moment, le choix s'est fait, la question s'est faite, entre vivre ou mourir, j'ai choisi la vie.
Oui.
Et donc, j'ai fait cette cure, et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est pas la cure, parce que c'est juste une période d'interruption, on est isolé du quotidien et du monde, mais en fait, c'est ce que j'ai trouvé comme palliatif à la sortie. Avec lequel je me suis reconstruit,
oui.
Parce que je suis toujours suivi actuellement, même 2 ans et demi, même si je n'ai jamais retouché et je n'ai jamais eu envie de... Ça ne s'est jamais même pas posé la question. Je m'en suis sorti grâce à la photo, en fait.
Ah oui.
Parce que il y a très longtemps, il y a 20 ans, je faisais du dessin et de la peinture, et justement au moment où j'ai fait la cure, s'est posé la question. J'aurais très bien pu choisir le dessin ou la peinture, mais je suis pas sûr que ça aurait marché, en fait. Parce que le dessin, la peinture, c'est des activités qui demandent de la concentration, d'être tout seul, d'être chez soi, enfin, vous voyez.
Oui,
alors
vrai.
Que la photo, ça m'a sauvé, ça m'a permis de...
C'est une ouverture sur l'autre et sur le monde.
Oui, exactement. Et donc, du coup, je me suis jeté passionnément dans la photo. J'en faisais un petit peu avant. Et à un moment, dans mon processus de reconstruction, il y a eu non à l'alcool. Et à un moment, il y a eu non au travail aussi. À un moment, c'est-à-dire que il y avait des choses, enfin des comportements, des relations, que ou un trop plein au travail. Mais c'est souvent le cas. En plus, quand on a des problèmes d'alcool, en fait, on a la même chose au niveau du travail. C'est-à-dire on investit tout. Dans le travail, quand on n'a que l'alcool dans sa vie.
Oui.
Et donc, du coup, comme j'ai ma vie, en fait, il y a eu plein de choses. Il n'y avait plus que le travail, il y avait la photo, je faisais plein de choses. Et à un moment, il a fallu que... au bout d'un moment, j'en pouvais plus, en fait. Et mon corps, même, tombait malade, je ne pouvais plus marcher. Donc, je faisais un métier assez difficile dans la restauration. Et à un moment, voilà, j'ai dit stop et ils ont fui en arrêt depuis le mois d'octobre dernier. Et je ne retournerai jamais dans la restauration, donc ça c'est vu avec le médecin. Mais du coup, j'ai profité de ce temps-là pour réfléchir avec mon psy et je me suis lancé dans un projet de formation justement pour devenir photographe.
Qu'est-ce que vous aimez photographier particulièrement ?
Particulièrement les portraits, les gens. Et puis après, je fais de tout. En fait, je pars le matin avec mon appareil, avec des idées dans la tête le matin, et puis je rentre le soir avec des choses qui n'étaient pas prévues et qui étaient encore plus intéressantes que ce que j'avais prévu le matin. Mais en fait, je photographie tout ce qui se présente, quoi. Alors, ça peut être des paysages, même si c'est pas super intéressant. Ça peut être des manifestations, enfin des animaux, des fleurs, ça peut être...
Vous observez, observez la vie autour de vous.
Voilà, par mon regard, en fait. Et donc, j'ai fait un dossier, j'ai monté un dossier. En fait, je me suis investi à fond dans ce dossier, comme si c'était ma dernière chance. Parce qu'en fait, comme j'ai 48 ans, j'ai 49, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et il avait raison, mon psy, de me pousser là-dedans, parce que pour ne pas avoir de regrets plus tard, vous voyez, le but de faire cette demande et de faire un dossier béton, avec une lettre de motivation béton, un projet, c'était au bout du compte, peu importe la décision, qu'elle soit positive ou négative, c'était juste qu'arrivé à 54 ans, 55 ans, et que, mettons, je me mette à vendre de l'endo ou de la choucroute sur des marchés, peu importe, c'est pas péjoratif, mais que si ça se passe mal, je voulais pas me retourner, et puis en
pas
me disant,
regret,
si j'avais su.
Au moins, avoir été au bout du truc pour savoir ce qu'il y avait derrière.
Voilà.
Et puis, au-delà de ça, comme on disait tout à l'heure avec Pierre, les projets, ça nous tient debout. Hein.
Bah, oui, parce qu'en fait, quand on arrête une addiction, on la remplace forcément par une autre addiction, parce que même si on fait un travail sans nous entre-temps, vous voyez, mais ça se fait lentement, mais à partir du moment où c'est une addiction qui est positive, ça change tout,
oui,
donc c'est pas destructrice.
Bien sûr.
Et donc du coup, je me suis accroché à ça quand même, à une bouée. Et alors que ça me ressemble pas du tout, parce que comme les gens qui sont dans l'alcool ou qui ont une mauvaise image d'eux ou même d'autres gens, on a plutôt tendance à pas avoir. Généralement, les gens ont un manque de confiance en eux. Et moi, quand j'ai été à fond dans mon projet, c'était le contraire. En fait, j'avais même pas imaginé une seconde qu'il pouvait y avoir une réponse négative, si vous voulez. Mais je m'y attendais. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui qui est négative, justement.
Ah.
Et donc, du coup, je suis un peu déboussolée. Alors, du coup, par rapport à l'alcool, il n'y a pas de problème parce que tout ça est consolidé. Bon. Et je pense qu'il n'y a pas de risque. Enfin, maintenant, je suis à mon fort. C'est pas tout ce qui s'écroule d'un coup, peut-être après. Mais je suis un peu déçue. Puis surtout, je voulais avoir votre conseil parce que... dans mon dossier béton avec qui je me suis fait aider par un conseiller en évolution, J'ai fait une grosse lettre de motivation, un gros projet. Mais bon, c'est la photo, ça, c'est un peu particulier pour un projet de reconversion, vous voyez. Ça reste futile, des fois.
Oui, enfin, pas forcément, ça dépend, enfin, je ne sais pas.
Et en fait, j'ai juste brièvement, dans ma lettre de motivation, évoqué que la photo m'avait aidé à me reconstruire, mais j'ai pas dit pourquoi, en fait. Et j'ai pas parlé de tous mes problèmes, j'ai pas le chemin. J'ai pas dit que c'était pas juste, vous voyez, en me réveillant le matin, bah tiens, si j'allais faire photographe comme autre chose. Mm-hmm. J'ai pas expliqué à quel point ça faisait partie de mon projet de reconstruction.
Pourquoi ?
Eh ben, je sais pas, parce que... Et donc, du coup, là, j'ai moyen, justement, de faire un recours.
Ah, je vois ce que vous voulez dire. Et vous avez envie, peut-être, d'ouvrir votre cœur plus sincèrement ?
Et je me disais, mais de toute façon, je vais aussi... Enfin, j'ai contacté, j'ai envoyé un mail à mon conseiller. Et je me disais que, justement, dans ce recours, je sais pas s'il a des chances d'aboutir ou pas, hein, mais, du coup, quand je joue en carte sur table en disant la vérité, en parlant de mon dossier médical, et en leur disant que c'était autre chose qu'un caprice, vous voyez, en se levant le matin, j'aurais pu dire photographe, comme j'aurais pu dire, je sais pas, plombier, charcutier. Leur dire que c'était autre chose derrière de plus, vous voyez.
Pour être très sincère, Marc, j'aime beaucoup cette démarche, cette idée-là. Parce que je pense dans la vie que quand les choses sont justes et arrivent au bon moment, quand on est soi-même sincère, quand on parle avec son cœur, il y a une résonance en face.
D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai voulu le cacher, mais à un moment, j'ai hésité. Je me suis dit que ça pourrait peut-être me desservir justement dans la décision. Ou ça aurait pu m'aider à l'avoir du premier coup, mais là je me dis que de toute façon, si je peux faire un recours et appuyer ma demande là-dessus, ce que j'ai pas dit au début, c'est, en fait je joue mon va-tout, en fait j'ai plus rien à perdre après.
Alors plusieurs questions. Est-ce qu'ils ont justifié leur réponse?
Oui, alors ils l'ont justifié.
Alors
parce que vous savez, quand il y a des formations, en fait, les budgets sont votés l'année d'avant. C'est-à-dire que là, on est en 2020, c'est les budgets qui ont été votés en 2019.
D'accord.
Donc, avant le Covid-19, justement. Et donc, du coup, en dehors, si vous voulez, je ne me remets pas en question, moi, par rapport à mon projet, à ma lettre de motivation ou à mes compétences ou quoi que ce soit, mais leurs décisions dépendent aussi des préconisations qu'on leur fait quand il y a les budgets. Par exemple, on va leur dire, cette année, il manque 300 000 bouchers charcutiers en France,
il
faut pousser ces professions-là. Ou alors, justement, la photo, en fait, j'ai fait un projet, dans mon projet, en fait, il faut se projeter court terme, moyen terme, long terme, et il faut dire comment on se voit, enfin bon. Alors, la photographie, c'est très compliqué, c'est plein de statuts différents, et justement, j'ai tout épluché, j'ai tout évoqué, tous les possibles chemins que je pouvais prendre, les différents statuts que je pouvais cumuler en même temps pour pouvoir y arriver, et en fait, pour eux, ça semble trop hasardeux, on va dire.
J'étais en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une niche qui vous intéresserait ? Quelquefois, quand on a un projet assez précis en disant, voilà, j'ai envie de me spécialiser dans, je ne sais pas, ça vaut le coup de réfléchir à quelque chose, d'arriver avec un projet, vous voyez, plutôt que de dire, je peux faire plein de choses, je peux tout photographier, je peux aller dans plein de domaines, voilà, j'ai très envie de me spécialiser dans ça, tel secteur de la photo, parce qu'il peut y avoir un marché, parce que je sais que je pourrais, etc. etc. Est-ce que c'est un angle de proposition qui pourrait être intéressant pour eux?
Alors, eux, ce sont des financiers, ce ne sont pas des photographes, les gens qui analysent.
Non, j'ai bien compris. Mais justement, comprendre que vous ne partez pas dans un truc dans l'absolu, mais que vous partez avec un projet peut-être plus affiné.
Alors après, moi, j'avais mis dans mon dossier, justement, j'avais mis un portfolio de tout l'éventail des choses que je faisais complètement différentes, justement.
Mais c'est l'inverse que je suis en train de vous dire, Marc.
Oui.
C'est l'inverse. Quand on arrive avec plein de choses, ça peut faire peur.
Ouais.
Ça peut sembler un petit peu, non pas brouillon, mais finalement, il ne sait pas où il va. Alors que si vous réfléchissez un petit peu à un secteur qui vous plairait particulièrement, même si après la vie vous amène ailleurs, mais au moins pour la présentation de ce projet, de dire voilà, moi j'ai eu l'idée de faire des photos, j'en sais rien dedans, je vous dis n'importe quoi, des bébés à la maternité par exemple, ou j'en sais rien, et de proposer quelque chose qui soit très précis, ça peut peut-être faire la différence. Je ne sais pas, je me pose la question. Bon, ça, c'est une chose. Et pour répondre à votre question sur qui vous êtes, vous, et quels sont quelle est la réalité de votre motivation, oui, moi, je pense que ça serait bien d'être peut-être un peu plus humain et plus sincère dans ce que vous racontez.
Oui, parce qu'après, j'avais peur qu'en faisant ça... En fait, j'y vais franco, en fait, mais je respecte effectivement ce que je vous ai dit, que c'était bien plus pour moi que... une réconversion parmi tant d'autres. Ça fait partie de ma reconstruction. Mais après, ça fait un peu aussi, vous savez, qu'en mettant tout mon dossier médical avec les lettres des médecins, ça fait un peu du chantage, quoi.
Là, je ne suis pas d'accord là-dessus, effectivement. Personne ne vous demande d'aller mettre les lettres de votre médecin. Ça devient impudique, si je peux me permettre. Hein. Je trouve ça impudique. En revanche, racontez les choses comme vous me les racontez là. Parlez avec votre cœur en disant ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté et à quel point ça fait partie de cette reconstruction, ça me paraît très très bien. Après, vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu et de tout montrer, c'est pas le but. Vous n'allez pas leur montrer vos examens, vos ordonnances, tout ça, il n'y en a pas besoin, ça me paraît assez inapproprié ça pour le coup.
Non, c'est-à-dire que j'avais des courriers de professionnels justement. C'était pas des examens médicaux, hein, où, dans lesquels il disait que dans ma reconstruction, c'était que je pouvais plus retourner dans la branche dans laquelle j'étais et qu'une reconversion était très envisageable, vous voyez, enfin, c'était juste ça.
Mais ça, juste ça, ça n'a pas de poids. Une reconversion, d'accord, mais n'importe laquelle à ce moment-là. Oui, ça, c'est pas ça qui va appuyer. Moi, je crois vraiment que la corde à jouer maintenant, c'est la corde de la sincérité. Et c'est tout ce que vous m'avez dit là ce soir parce que je trouve ça extrêmement touchant et constructif. Vous avez du solide dans votre construction mentale et dans vos projets. Et ça serait dommage de ne pas vous en servir le plus sincèrement du monde. Juste être sincère, être vous.
Oui, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, donc, j'ai eu la réponse. Et justement, enfin, c'est pas que j'appréhendais ce jour-là, c'est que je n'étais pas angoissée. Mais je m'attendais à une réponse positive, alors que ça ne me ressemble pas du tout. Mais je me disais, j'ai tout donné. Et donc, du coup, c'est assez bizarre comment je réagis, parce que je ne réagis pas, en fait. Mais c'est l'après qui me fait peur.
Bah, si vous réagissez d'abord, vous m'appelez, c'est déjà une manière de réagir et d'en parler. Vous vous posez déjà la question de savoir comment rebondir. Moi, je trouve que vous réagissez même plutôt de manière positive. D'ailleurs, je ne savais pas, comment se fait-il qu'on peut... pas contester, mais faire appel de leur décision.
Ben, en fait, si on a un recours, on peut redemander un réexamen si on a des éléments nouveaux dans notre dossier. Donc moi, j'ai pas d'éléments nouveaux, si vous voulez, par rapport à mon projet professionnel, à ce que j'avais...
Sauf si vous réfléchissez à un axe.
Oui.
Quelque chose qui pourrait vous démarquer de ce qui existe déjà. Prenez le temps d'y réfléchir. Même si, une fois de plus, après, la vie vous amène vers autre chose. Mais au moins que dans la présentation, on se dit, tiens, lui, je me souviens de lui parce qu'il est venu avec un truc vraiment différent.
Donc voilà, je vais prendre ma décision à froid. Je vais attendre, vous voyez, de réfléchir à tout ça et de voir la suite, ce qui se présente. Et puis je me dis, tout ce qui est arrivé, finalement, c'est une bonne chose.
Moi, je suis assez partante pour cette philosophie-là. Et la vie m'a appris souvent que quand une porte se ferme, au début, ça fait mal parce qu'on a envie de se taper la tête dessus. Et que très vite, on se rend compte qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Bon, déjà, celle-là, elle n'est pas complètement fermée. Il y a moyen de la rouvrir. Donc, je pense que vous auriez tort de ne pas le faire, de ne pas essayer. Comme vous dites, au moins, je vous serais allé au bout du truc, du procédé.
Bah oui, parce que le résultat est différent. Après, si on choisit un autre métier dont on n'a pas le choix, c'est parce que et que ça se passe mal, c'est pas du tout la même chose que si on a. Vous voyez, j'aurais osé, j'aurais rien à regretter.
Exactement.
Donc c'est plus la même chose, et parce que en plus j'arrive à l'âge limite, c'est maintenant ou jamais.
Alors attention, arrêtez de vous mettre vous-même un cadre comme ça, parce que c'est un auto-sabotage de faire ça tout le temps. Comme si à 50 ans, c'était fini, il n'y avait plus rien de possible.
Non, mais après 50 ans, c'est plus difficile. C'est vrai que je... Mais ceci dit, à 50 ans, on a encore au moins 15 belles années de travail. Donc, ce que je voulais dire, quand je dis 50 ans, c'est que je me dis qu'il ne faut pas se louper. Parce que ça va être des années, les dernières années de sa carrière. Donc, c'est mieux si on ne se loupe pas à ce moment-là, quoi.
C'est mieux, mais si vous vous loupez, comme vous dites maintenant... Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, dans 6 mois, il ne va pas se passer autre chose aussi.
Bah oui, c'est ça la vie en fait.
Et puis vraiment, je pense que vous avez une réaction très, très saine parce que c'est tout frais. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, vous êtes déjà dans une réflexion. Je trouve ça plutôt positif pour la suite. Je suis plutôt, plutôt rassurée pour vous. Je pense que vous avez des tas de ressources en vous. Et surtout, vous me l'avez dit vous-même, ça ne vous a pas fait replonger dans quoi que ce soit. Vous avez cette force-là,
non,
vous l'avez gardée, cette force-là.
Mais ça, par contre, c'est le... Parce que vous savez, quand on a des problèmes d'alcool et quand les gens arrêtent, s'il y avait des solutions miracles, on le saurait et puis il n'y aurait pas de gens qui boivent. Donc en fait, moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que la solution, elle était au fond de nous, la clé. Et que ce qui a marché pour moi, on ne peut pas donner de conseils aux autres parce que ce qui marche pour moi, ça ne marcherait pas pour d'autres, vous voyez ?
Bien sûr.
Et bon... J'ai réussi à trouver ce qui a marché pour moi, mais bon, j'ai pas envie que ça s'arrête là, quoi.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce qu'il y a encore des choses au fond de vous, là, que vous êtes en train d'aller chercher, vous voyez. Tout de suite, vous avez, la première ressource, c'était de vous dire, et si finalement je leur disais vraiment qui je suis ?
Ben oui, c'est ma réaction, parce que j'ai envie de l'avoir, cette formation, en fait. Et parce qu'en fait, vous savez, là, quand on a la réponse pour la formation... c'est ce qu'on m'avait expliqué, parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes nul ou que vous ne valez rien.
Pas du
que...
tout, alors ça on est bien d'accord là-dessus,
voilà.
Bien sûr.
Parce que c'est très très dur déjà de faire un...
C'est pas un jugement de valeur cette histoire-là.
Non, mais je savais moi-même qu'en cas de refus, ça ne remettait pas en cause
vos compétences.
Mes qualités.
Ouais.
Parce qu'il y a d'autres critères, effectivement, comme je vous l'ai dit, qui dépendent d'autres choses.
Oui, j'ai bien compris. Il y a des budgets, il y a des priorités, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Donc ça, c'est déjà extrêmement positif pour moi, de ce que j'entends, de ne pas vous dévaloriser du tout. Et de comprendre que c'est en aucun cas une remise en question de qui vous êtes. C'est simplement là quelque chose qui a coincé et qu'on peut tenter de représenter. Je crois qu'il faut vraiment que vous restiez accroché à votre objectif et que vous y mettiez toute votre énergie.
Ben, il me reste 2 mois pour le faire, en fait.
C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande de déposer un nouveau dossier ?
Eh bien, en fait, ma formation commence en octobre. Et là, on me demande de compléter mon dossier. Donc, du coup, si je le complétais, ça serait déjà d'une part en recevant un courrier, en expliquant ce que je vous ai dit, entre autres, par rapport à mon parcours. Voilà. Ce que je n'avais pas vraiment détaillé dans la première lettre de motivation. Parce que je ne le jugeais pas utile, mais tant qu'à faire, quitte à dire qui on est vraiment, c'est encore mieux. Et puis la deuxième, c'est peut-être effectivement comme partir sur votre angle et de dire, bah oui, mais parce qu'effectivement, j'ai fait quelque chose dans mon projet qui était assez, pas vague, mais vous savez, la photo, c'est très compliqué. Il y a plein de statuts différents,
bien
on
sûr,
peut cumuler plein de statuts. Et c'est difficile donc de se projeter. Donc j'ai un peu mis tout ça, mais sans vraiment préciser. Mais effectivement, si je prends l'angle d'un particulier d'un domaine dans la photo, peut-être que ça peut être différent, oui.
Et oui, bien sûr. Alors juste, si je peux me permettre un petit conseil, quand vous rédigez votre nouveau courrier, faites-le avec subtilité. Ne la jouez pas ni dans le chantage moral, ni dans le règlement de compte. Soyez simplement comme vous avez été avec moi ce soir. Dites, voilà, dites que vous avez été peut-être déçu ou en tout cas touché par ce refus et que vous aimeriez aller plus loin dans la présentation de qui vous êtes. Juste ça, voyez.
Oui.
D'amener les choses non pas ni sur un chantage ni sur un règlement de compte. Simplement dire ce que vous avez ressenti. Voilà, je me permets de vous dire que voilà, ça a été difficile pour moi d'entendre votre réponse. Et ça m'a donné envie peut-être de vous dire qui je suis vraiment. Juste, vous voyez, garder quelque chose de subtil pour ne pas risquer de les heurter. qu'il n'ait pas l'impression, vous voyez, que ce soit vraiment le côté « oui, vous n'avez pas compris à qui vous avez affaire », des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis là. Allô ? Ah bah je suis tellement pas claire qu'on a perdu Marc. Allô, allô ? Est-ce que Marc est encore en ligne ? Ah, on l'a perdu, me dit Jean-François. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe un petit disque, on essaie de récupérer Marc ? Non ? Ah bah attendez, alors, je récupère Olivier. Par contre, promettez-moi que si vous avez Marc, on le reprend. Ou au moins, on essaie de se caler pour demain, parce que j'aimerais bien finir cette conversation avec lui. Merci à vous en régie. Allô, Olivier ? Allô, allô ? Ah bah si on n'a pas Olivier non plus, qu'est-ce qu'on fait ? Allô ?
Allô, oui, Sabine, bonsoir.
C'est Olivier ?
Oui, c'est moi, Olivier.
Ah, bonsoir, Olivier, bienvenue à vous.
Bonsoir.
Désolée, on a eu un petit bug, j'ai perdu Marc avec qui j'étais
oui,
en train de parler.
Oui, j'étais en train d'écouter.
Moi aussi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, ça arrive malheureusement. On le récupérera, si c'est pas ce soir, on le récupérera demain.
Ok. Alors, moi, je vous appelle pour vous, en fait, pour vous demander un petit conseil. J'ai écouté un peu tous les témoignages et je dirais... Je rejoins un petit peu les problématiques de tous ces gens qui ont des problèmes avec l'alcool, et ont besoin d'un rebond derrière, et voilà, etc. Je vous explique en deux mots commençant pour aller assez vite. J'ai 59 ans. À 47 ans, ma vie a basculé. J'avais une famille de 3 enfants, j'étais marié, j'étais dirigeant dans une grosse entreprise de médias. Et j'apprends un après-midi que mon fils de 11 ans, mon aîné, Théo, s'est pendu. C'est une horreur. Évidemment, la culpabilité pèse sur mes épaules immédiatement parce que mon job a toujours fait effectivement que je passais certainement pas suffisamment de temps avec mes enfants, que j'ai pas vu arriver les choses et que je me suis dit j'ai pas su le protéger.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce petit bonhomme ?
Eh ben, en fait, un après-midi qui n'était pas fait comme un autre. Sa maman qui travaillait à la maison lui a dit va faire tes devoirs et je veux pas que tu sortes de ta chambre avant d'avoir fini tes devoirs, parce qu'il voulait pas les faire. Il était en train de regarder un film de Disney, là, je sais plus comment ça s'appelle, Pirates des Caraïbes, où la première scène c'est une suite de gens qui se suivent avec des boulets qui se font pendre les uns derrière les autres, et la dernière séquence c'est un gamin de 11 ans qui se fait pendre. Bon. Du coup, il arrête de regarder le film, il va faire ses devoirs, il commence. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ma femme sortant de son bureau où elle travaillait, elle le retrouve pendu à une corde. Bon. Donc, évidemment, on n'a aucune explication, il n'a laissé aucune explication.
Aucun signe avant-coureur, rien qui aurait pu présenter un déséquilibre, une souffrance.
Alors, c'était un gamin très joyeux, qui avait énormément de copains, de copines, mais il faisait des cauchemars. Il voyait des ombres la nuit, il se levait la nuit pour aller se cacher dans des placards, vous voyez. Je l'ai retrouvé même une fois, il était descendu d'un étage, parce qu'on a une maison à 2 étages, je l'ai retrouvé étalé par terre sur la terrasse. Il n'avait aucune blessure, hein, il était descendu comme ça. Bon. Bref, donc quand même une situation psychologique un petit peu difficile, on va dire, enfin problématique ou préoccupante, on va dire. Mais le médecin nous avait dit, vous savez, c'est normal, ça peut arriver à l'adolescence ou la préadolescence, faut pas vous inquiéter, etc. Donc on s'est pas inquiété plus que ça. Bref, le drame arrive, je passe et je tombe en dépression, je me fais suivre, je quitte mon travail parce que je pouvais plus tenir les responsabilités que j'avais. Au bout de 2 ans, je m'en vais. Je pars sur un autre projet complètement différent puisque je reprends un petit établissement, une brasserie. C'est un vieux rêve de refaire un peu de faire de la restauration. Je suis pas du tout du métier, hein. Moi, je suis dans l'audiovisuel, hein, donc voilà. Je l'ai remonté, ça a fonctionné, etc. Puis après, je suis reparti encore dans l'audiovisuel. Et puis, entre-temps, la dépression a continué à se reconstruire. Donc, j'ai revisité encore psychologue qui m'a traité. Et puis, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans l'alcool, petit à petit, doucement, etc. Jusqu'à ce que ça devienne un vrai problème, puisque j'ai eu des problèmes avec les forces de l'ordre.
Votre femme, pendant ce temps-là ?
Ma femme, elle travaille. Et en fait, elle s'est formée à une thérapie parallèle qu'on appelle la kinésiologie. Et donc, elle était en train de monter son affaire. Donc j'étais, enfin moi je l'aidais, disons financièrement, à monter le truc, oui. Mais elle était dans la construction de son affaire. Elle a quelqu'un de très fort psychologiquement. Bon, bien sûr, elle a souffert. Hein. Ça l'a bouleversé, ça l'a mis, voilà. Mais elle a su surmonter la dépression. D'accord. Moi, j'y suis pas arrivé. Donc bon, je me suis fait soigner. Hein. Et puis, donc, je vous dis, l'alcool est arrivé. Et là, j'ai commencé à dire stop. Donc, j'ai fait une cure. D'abord, je suis allé voir un psychiatre addictologue, que je suis toujours derrière. J'ai fait une première cure, une deuxième cure, une troisième cure. Et il se trouve que à Pâques de l'année dernière, mes deux autres enfants ont eu un grave accident de voiture. Mon fils a eu un traumatisme crânien ouvert. Il a été transporté en urgence
en réanimation.
Il a été soigné, sauvé. Il a eu 10 jours pendant lesquels il était entre la vie et la mort. Ils ont réussi à le soigner. Il a quasiment pas d'effets secondaires, si je puis dire, de séquelles, merci. Sauf qu'il a perdu la vue d'un œil. Okay. Donc il n'a plus qu'un œil qui fonctionne. Par contre, intellectuellement, il a une posture un petit peu différente, mais rien de très grave.
Ça aurait pu être tellement pire de ce que j'entends.
Voilà, ouais. Il aurait pu devenir, je ne sais pas quoi, en tout cas beaucoup plus handicapé que ça. Il n'a pas pu passer son bac, hein, parce que c'était du bac. Donc là, on est en train d'essayer de rattraper les choses. Je ne sais pas s'il pourra passer son permis de conduire, mais sa vie risque quand même d'être largement handicapée. Bref, je n'étais pas là le jour de l'accident. C'est une histoire complètement folle, puisque c'est la voiture, elle a été empruntée, pour ne pas dire autre chose, par mon neveu avec qui il passait le week-end de Pâques, qui était lui sans permis et ivre, et qui a donc les a embarqués dans la voiture pour faire un tour, en prenant les clés, et qui a eu un accident de fou, hein. Il roulait à 90 sur une route à 30, et la voiture a décollé sur un ralentisseur, enfin bon, je vous passe les détails. Donc, bref, je suis à nouveau, j'ai eu encore ce coup supplémentaire sur les épaules, j'ai replongé à nouveau dans l'alcool, et je suis encore en train, là, de me soigner, avec différents médicaments, dont le baclofène et compagnie, pour sortir du truc. Maintenant, mon problème, c'est que j'arrive toujours à en sortir, mais je trouve jamais l'après-cure, la solution de l'après-cure. Je connais le problème de fond. Le problème de fond, c'est la solitude, c'est le fait que j'ai plus de boulot.
Pardonnez-moi Olivier, mais il me semble que le problème de fond, c'est surtout le deuil de ce petit garçon.
Oui, bien sûr que le deuil est toujours là, et que j'ai essayé de le passer le suivi psychologique.
Parce que l'alcool n'est qu'une conséquence, pas une cause.
Oui, je suis d'accord, oui. Oui. Et je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. Parce que mes enfants sont furieux. Enfin, bref, moi j'ai 59 ans, je suis encore à la retraite et en même temps, je ne peux pas continuer à être dans cette posture-là, quoi. Et donc, mon problème, c'est de gérer le post-cure. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai arrêté?
Mais on ne vous a pas orienté vers les alcooliques anonymes, vers des groupes de parole, vers des gens qui sont là pour la période de transition comme ça?
Je l'ai fait, mais je n'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas vraiment trouvé de porte ou de porte de sortie, quoi. Mais ça, je l'ai fait, oui, les alcooliques anonymes, je suis allé, etc.
Et ça ne vous a pas aidé?
Pas vraiment, non.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça, quoi. Et donc, je suis un peu dans cette problématique-là dont j'ai du mal à sortir.
Alors, je suis un peu embêtée parce que là, il me reste une minute pour finir l'émission.
Oui, c'est ce que je vois.
Le sujet est quand même extrêmement important. Est-ce que vous seriez d'accord, Olivier, pour qu'on se parle demain soir?
Oui, votre assistant m'avait dit que c'était possible éventuellement si on n'avait pas le temps de se revoir demain à 22h30.
Il est bien cet assistant.
Oui, il est très bien.
Non, si vous êtes d'accord, j'ai certainement pas envie de vous laisser comme ça. J'aimerais qu'on pose les choses un petit peu.
Oui.
Et qu'on voit comment on peut peut-être vous aider ou mettre un peu de lumière sur tout ce chemin-là.
D'accord. Ouais.
Donc, si vous êtes disponible, Olivier, on commence l'émission demain soir ensemble à 22h30.
Bah d'accord, ça marche.
Ça vous va comme ça?
Ça me va très bien.
Merci Michel.
Je vous remercie beaucoup Sabine.
Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Merci, à demain. Bonne soirée.
Merci, l'émission se termine en douceur. Un grand merci à vous tous qui êtes venus nous ouvrir votre cœur, vos réflexions sur la vie. Je vous retrouve donc demain soir à partir de 22h30 avec le même plaisir. D'ici là, passez une bonne nuit, prenez soin de vous et à demain.